La rupture, c'est un mot qui est assez à la mode dans nos débats de société. Alors, c'était encore plus à la mode vers 2007, lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle nous a promis la rupture. Et puis on a parlé de la rupture qu'aurait effectué ce candidat devenu président. Et maintenant, ceux qui espèrent être élus à sa place veulent la rupture, de la rupture, de la rupture. Ou peut-être la rupture tout court. Dans la vie politique, il semble que la rupture, ça soit quelque chose d'assez éphémère. En revanche, dans le Nouveau Testament, c'est bien à une rupture permanente, définitive, que sont appelés les disciples de Jésus-Christ. Une rupture, pour beaucoup, avec une vie passée, une façon de vivre passée, et pour tous, en tout cas, une rupture avec les valeurs du monde qui ne connaît pas Dieu. Et ce matin, nous continuons notre série sur la première lettre de Pierre. J'ai hésité, je me suis dit, on est le 18 décembre, on est en pleine saison de l'Avent, est-ce que je prêche en rapport avec Noël ? Et puis je me suis dit que eh bien, cette année, nous avons la chance que le Noël, que le 25 décembre soit un dimanche, et donc il y aura vraiment un culte de Noël ce jour-là, et j'ai décidé finalement de continuer la série. De toute façon, comme les enfants nous l'ont dit la semaine dernière, Noël c'est tous les jours, n'est-ce pas ? Alors je vous propose de lire dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, les versets 1 à 6. 1 Pierre 4, versets 1 à 6. Si vous n'avez pas votre propre Bible, vous pouvez suivre dans les Bibles bleues qui doivent être près de vous, à la page 1190. Page 1190. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Encore un texte qui est d'une telle limpidité à la première lecture qu'on se demande même si c'est la peine de prêcher dessus. Je plaisante, bien sûr. Un texte sur certains points un petit peu complexe, mais nous allons essayer de dégager deux points de réflexion essentiels dans ce que nous dit Pierre. Tout d'abord, Pierre expose ses lecteurs à une double rupture, ce sera mon premier point, puis à une double libération, mon second point donc. Tout d'abord, une double rupture. Alors la première rupture que l'apôtre Pierre souligne ici, c'est une rupture dans la manière d'envisager la souffrance. Nous vivons dans un monde, encore aujourd'hui, où la souffrance c'est quelque chose qu'il faut toujours éviter, et l'idée c'est qu'elle n'apporte jamais rien de bon. Peut-être particulièrement dans notre civilisation européenne, marquée par deux guerres mondiales, l'idéal auquel on veut nous faire aspirer aujourd'hui, c'est la souffrance zéro. Mais Pierre nous propose une autre vision de la souffrance. Déjà plus tôt dans cette lettre, il nous a rappelé que la souffrance n'est pas vaine si elle est vécue dans le cadre d'une relation avec Jésus-Christ, à la suite de Christ, qui lui-même a souffert pour notre bien, afin de nous amener à Dieu, verset 18 du chapitre 3. Mais cette souffrance que Christ a vécue, elle a débouché sur la plus grande des victoires, la résurrection, la vie nouvelle et le triomphe sur le mal et sur la mort. Et donc si la souffrance de Christ a pu déboucher sur le plus grand bien qui soit, le plus grand bien concevable, alors nous dit Pierre, lorsque nous souffrons, notamment à cause de notre engagement pour Christ, nous sommes solidaires non seulement de ses souffrances, mais aussi et ultimement de sa victoire. Et Pierre résume son propos dans le verset 1 de notre texte. Donc, ainsi donc, il fait la transition, puisque le Christ qui est ressuscité et vainqueur aujourd'hui, puisque le Christ a souffert dans la chair, eh bien vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est une image très forte, s'armer d'une pensée, devant les souffrances vécues dans le monde, et puis devant le décalage qui résulte de la vie chrétienne, décalage par rapport à la manière de vivre de nos contemporains, eh bien nous sommes appelés à nous armer d'une pensée. Mais alors la question se pose, puisque la formulation de Pierre est un petit peu complexe, mais de quelle pensée s'agit-il ici ? Mais Pierre précise son propos tout de suite après, parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ce verset a donné lieu à plusieurs interprétations. Je vais directement vous livrer celle qui me paraît de loin la plus probable. Pierre établit ici un parallèle entre la souffrance de Jésus-Christ et celle de ses disciples. Et voici à peu près le raisonnement de Pierre, à mon sens. Mes amis, réfléchissez à la souffrance du Seigneur. Elle a été dure, elle a été terrible même, mais elle a eu pour aboutissement la victoire sur le péché. Eh bien, vous de même, armez-vous de la même pensée lorsque vous souffrez dans la chair, et ce sera le cas puisque vous êtes disciples de Christ, comprenez que vous souffrez ainsi parce que vous avez tourné le dos à une vie de péché. Il s'agit là, bien sûr, des souffrances vécues en raison de l'engagement pour le Christ. Réfléchissez à l'aboutissement de la souffrance de Jésus. Rappelez-vous que c'est la victoire sur le péché et la mort qui vous attend, vous aussi. Et plus largement, même lorsqu'il ne s'agit pas de souffrances liées directement à l'engagement chrétien, il y a là un rappel de ce que Christ est mort aussi pour nous débarrasser de la souffrance, qui nous promet un monde sans souffrance. Alors vous me direz peut-être, est-ce que c'est une sorte de méthode Coué, comme on dit ? Alors vous savez, Émile Coué, parce que c'était vraiment quelqu'un, c'est celui qui a mis au point une méthode d'autosuggestion positive. Alors d'après lui, il faut se répéter 20 fois le matin et 20 fois le soir la phrase suivante, « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé 40 fois par jour, « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Et c'est devenu une expression pour dire lorsqu'on veut tellement se faire croire que les choses vont bien, qu'on le martèle alors qu'on ne le croit pas vraiment. Est-ce que c'est cela que Pierre nous propose ici ? Est-ce que c'est un déni de la réalité ? Pas du tout, puisqu'au contraire, il souligne ici la réalité de la souffrance. Il braque le projecteur sur la souffrance. Il dit « Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Mais ce que Pierre fait, c'est qu'il situe les souffrances du chrétien, en tout cas celles qui sont vécues en raison de sa foi, et plus largement les autres aussi, dans la continuité des souffrances de Jésus-Christ. Et de même que pour le Christ, le résultat de la souffrance, ça a été la victoire sur le péché, non pas sur son propre péché, mais sur notre péché, eh bien pour les chrétiens, l'aboutissement de la souffrance, c'est une vie nouvelle, débarrassée du péché. Et les souffrances du chrétien sont la marque que nous sommes bien les disciples de notre Maître, et que le monde nous rejette comme il l'a rejeté. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une petite parenthèse à ce sujet, au sujet de la souffrance pour le Seigneur. En lisant ces textes qui parlent de la souffrance des chrétiens à cause de leur engagement pour le Christ, nous pouvons avoir tendance à ne pas nous identifier à leur situation, à se dire « Ah ça, mais ça c'était les chrétiens persécutés, et nous vivons dans une démocratie où, grosso modo, nous pouvons dire et faire ce que nous voulons, sans craindre en tout cas de violence physique, et souvent sans craindre de problèmes juridiques, quoique l'évolution des dernières années ne soit pas toujours rassurante. Mais je crois que la situation des chrétiens auxquels Pierre écrit n'est pas aussi éloignée de la nôtre qu'on le pense. Oui, c'est vrai, il y a un écart. Les lecteurs de Pierre vivaient sous l'empereur Néron, empereur à moitié fou, coupable de nombreuses violences, y compris, mais pas seulement, contre les chrétiens. Malgré cela, il faut reconnaître que d'après les éléments historiques dont nous disposons, et aussi d'après les indices de cette lettre même, il n'y avait pas à l'époque de Pierre de persécution systématique et généralisée des chrétiens. Globalement, les lecteurs de Pierre, chrétiens, pouvaient continuer à vivre, à travailler, à fonder des familles, mais lorsqu'ils affichaient clairement leurs convictions à propos de Jésus-Christ, ils étaient mal vus. Et parfois, peut-être souvent, ça allait jusqu'à la discrimination, l'exclusion et même la violence. Et je crois que la suite de notre texte tend à confirmer ce contexte. Le verset 4 nous dit « Ils sont surpris, les païens, que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient. » Ou on pourrait traduire « ils vous diffament ». C'est plutôt la calomnie que la persécution, qui prévaut en tout cas ici. Et du coup, il me semble que leur situation n'est pas si lointaine de la nôtre. Quelques exemples. Lorsque, dans une discussion au travail, après avoir appris que vous alliez à l'église, on vous dit « Ah, très bien, ça, c'est formidable. Les gens qui ont de l'espérance aujourd'hui, c'est super. » D'ailleurs, toutes les religions véhiculent un message de paix. Finalement, vous conviendrez avec moi que l'important, c'est pas ce qu'on croit, c'est de croire en quelque chose. Si on vous dit ça, il n'y a à peu près qu'une seule réponse permise par notre société aujourd'hui. Mais oui, cher collègue, tu as tout à fait raison. Si vous commencez à dire que c'est Jésus et lui seul qui peut donner un sens à votre vie, à la vie tout court, y compris à celle de votre interlocuteur, il se peut qu'il pose un regard différent sur vous. Peut-être que par la grâce de Dieu, il demeurera bienveillant, qu'il s'intéressera à ses convictions fermes, mais il est au moins aussi envisageable que le contraire soit vrai, que ça change son attitude à votre égard. Et ça peut aller jusqu'à des situations de tension et de souffrance réelle dans un tel cas de figure. Et peut-être que pour certains parmi nous ce matin, c'est quelque chose que vous vivez régulièrement, dans vos familles, au bureau. La souffrance d'être dans ce décalage, non seulement dans la façon de vivre, mais aussi dans la façon de penser le monde et la vie. Mais la souffrance est peut-être encore plus présente lorsqu'il s'agit de faire des choix d'éthique personnelle qui ne sont pas compris par les contemporains. Et c'est ce cas de figure que Pierre semble envisager ici en premier lieu. Alors je vais prendre un exemple courant dans notre contexte. Une des sources de souffrance les plus évidentes, je pense, pour pas mal de chrétiens aujourd'hui, est associée au célibat. Ceux qui ont à cœur de vivre ce célibat selon l'enseignement biblique, notamment en s'abstenant de relations intimes en dehors du mariage, et aussi en excluant le mariage avec une personne qui ne partage pas leur espérance, eh bien ces personnes doivent faire face à un torrent culturel qui relaye inlassablement le même message, qu'il est tout à fait normal et hautement désirable de faire ce qu'on veut, tant que c'est entre adultes consentants, il n'y a aucun problème. Et le contraire est anormal, il est anormal et même malsain, suspect, voire ridicule, de s'en priver. Et je pense qu'il y a là une source de souffrance qui, pour beaucoup de célibataires chrétiens, vient d'une part de la difficulté de vivre cette abstinence sentimentale et sexuelle, et d'autre part, et peut-être plus encore, du décalage de plus en plus évident avec les amis, les collègues, etc. C'est une chose de vivre cette attente à 20 ans, à 25 ans, c'en est une autre à 30, et à plus forte raison à 35, 40, 45 et au-delà. Et je souligne cet exemple courant pour que nous comprenions que la souffrance liée à l'engagement chrétien, c'est pas seulement la persécution, c'est aussi le fait de vivre autrement. Alors j'ai mentionné un exemple typique, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. On pourrait aussi parler de souffrance dans le mariage. Même dans nos pays libres, plus nous vivons ouvertement et clairement notre engagement pour Jésus-Christ dans tous les domaines, plus nous sommes en décalage et plus nous risquons, tout au moins, d'attirer des réactions hostiles contre nous. Ou bien, ce qui devrait nous mettre encore plus en colère, d'attirer des réactions hostiles contre Dieu. L'hostilité contre Dieu. J'étais frappé. Jeudi est décédé un célèbre philosophe athée, très célèbre dans les pays anglo-saxons, Christopher Hitchens. Quelqu'un à l'intelligence remarquable qui a écrit des livres d'attaque frontale contre la foi en Dieu. Et un de ses confrères, donc Hitchens est décédé jeudi d'un cancer, un de ses confrères, Richard Dawkins, qui est à peu près sur la même ligne, peut-être encore plus agressif, lui a rendu hommage en disant « C'est quelqu'un qui s'est élevé contre tous les tyrans toute sa vie, tous les tyrans, y compris Dieu. » Je trouvais quand même frappant quelqu'un qui consacre sa vie à dire que Dieu n'existe pas, présente Dieu comme un tyran. C'est révélateur. Même dans nos pays libres, je le disais, plus nous vivons ouvertement et clairement notre engagement pour Christ, plus nous sommes en décalage. Et ce décalage vient justement de la seconde rupture dont Pierre nous parle. Une rupture dans la manière de vivre. Il s'agit de vivre, verset 2 maintenant, non plus selon des désirs humains, des convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui reste à vivre dans la chair. Vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations en vous livrant à la débauche, au désir, ou autre traduction, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Et notez le contraste entre la volonté de Dieu au verset 2 et la volonté des gens des nations, des païens, au verset 3. Pierre ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle d'un débordement de débauche. Et peut-être que certains se disent « Mais enfin, je connais beaucoup de non-croyants qui ne vivent pas comme ça, qui vivent des vies plutôt droites, morales, etc. » C'est vrai, je ne pense pas que Pierre le contesterait. Peut-être que certains ici ce matin se reconnaissent dans ce profil de personnes qui n'ont pas d'engagement pour Jésus-Christ, mais qui estiment vivre des vies droites. Je pense qu'on peut dire deux choses à ce sujet. Tout d'abord, c'est en grande partie l'influence de l'enseignement chrétien qui a fait que notre culture a longtemps valorisé, et dans une certaine mesure encore aujourd'hui, certaines valeurs comme la sobriété, la fidélité, l'engagement. Dans les cultures totalement païennes, ce que la nôtre est en train de redevenir par certains aspects, ces valeurs sont généralement peu valorisées. On leur préfère la force, la fierté, le culte du plaisir, le syncrétisme et le relativisme moral. C'est dans ce contexte païen que Pierre écrit. Et en Asie mineure, pays où vivaient donc ses lecteurs, l'idolâtrie, les cultes de fertilité associés à la prostitution sacrée, le culte de l'empereur, la maltraitance des esclaves sur lesquels on avait droit de vie ou de mort, l'infanticide légal, tout cela faisait partie du quotidien. Pierre n'a pas tort de parler de débordement de débauche. Et si nous sommes honnêtes et que nous regardons notre monde, nous n'avons pas tort non plus de parler de débordement de débauche. Mais plus fondamentalement, ceux qui vivent des vies droites, mais sans espérance en Christ, et il y en a, bien entendu, n'ont pas de fondement ferme, je pense pouvoir le dire, pour refuser de vivre comme bon leur semble. S'ils s'abstiennent de comportements immoraux, c'est souvent par éducation, par habitude, par tempérament peut-être. Ils peuvent vivre autrement, c'est vrai, aussi par la grâce commune de Dieu, mais ils n'ont aucun témoignage à apporter pour inviter leurs contemporains à changer de comportement, à faire de même. Et du coup, comment s'opposer à l'orientation générale de la société? Et puis, enfin et surtout, leur vie autre reste une vie sans espérance ultime. À nous de témoigner à ces personnes de ce qui fonde notre vie autre. Mais revenons-en à notre seconde rupture. Pourquoi vivre autrement? Question capitale. Et je crois que la réponse qu'on apporte à cette question, pourquoi vivre autrement, fait toute la différence entre un système de lois religieuses et l'évangile, la bonne nouvelle. Si Dieu nous appelle à renoncer à l'immoralité, c'est pas pour faire de nous des gens conventionnels qui savent obéir à des ordres, mais c'est parce que nous croyons, et Dieu nous affirme, qu'il existe une vie infiniment meilleure, une vie rachetée par le sacrifice de Christ et vécue dans la réconciliation avec Dieu. Une vie hautement plus désirable que la vie que vivent nos contemporains et que parfois nous vivons avec eux. Une vie vécue aujourd'hui dans l'espérance et la persévérance, mais qui un jour sera vécue dans la plénitude et dans la joie éternelle. Donc ce n'est pas pour nous priver que Dieu nous appelle à renoncer à une vie vécue comme on veut, comme bon nous semble, mais c'est au contraire pour nous combler. Parce que si nous avons confié notre vie à Christ, nous en avons fini avec le péché. Pour citer le verset 1, il y a rupture. Et ça nous conduit à mon second point, je serai plus bref, une double libération. Alors je reconnais que le mot libération n'est pas utilisé dans notre texte. Mais il me semble que ce mot, et le mot rupture n'était pas non plus d'ailleurs, mais il me semble que ce mot communique assez bien ce que Pierre veut faire comprendre à ses lecteurs ici. Fin du verset 1. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Et on ne peut pas penser de s'empêcher de penser à l'apôtre Paul, qui s'exprime en des termes semblables dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 11. Il nous dit « Ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Être chrétien, c'est avoir reçu la rédemption de votre vie, de notre vie. C'est-à-dire la libération d'une vie futile dans laquelle nous vivions pour nous-mêmes et pour nos idoles. Une libération pour pouvoir maintenant, enfin, vivre une vie nouvelle, selon la volonté de Dieu. J'ai eu l'occasion souvent d'utiliser cette image, et donc je la reprends à nouveau, Devenir chrétien, c'est changer de propriétaire de notre vie. Quand on dit que Jésus est Seigneur, on pourrait dire, s'adapter un peu à notre contexte, qu'il est notre propriétaire. Devenir chrétien, c'est changer de propriétaire, c'est céder tous les droits de notre vie à Dieu. Non pas pour notre perte, bien sûr, mais au contraire, pour être comblé par lui, qui est notre créateur et qui a tout ce qu'il y a de bon à nous donner. Le disciple de Jésus, c'est celui qui a fait demi-tour et qui a renoncé à décider de l'orientation de sa vie par lui-même, mais qui l'a soumise à Dieu. Et paradoxalement, il y a là une profonde libération, parce que c'est pour vivre en communion avec Dieu que nous avons été créés. Retrouver la vie avec lui, c'est être libéré d'une vie futile et retrouver la vie véritable pour laquelle nous avons été créés. Alors cette libération s'exprime de deux façons au moins dans notre texte. D'abord, il y a une libération du regard que le monde pose sur nous. Verset 4. « Ils sont surpris, dit Pierre, que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. » Et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Lorsqu'on a confié sa vie à Christ, c'est son regard sur notre vie qui compte. Et non plus celui des gens qui nous entourent. Alors bien sûr, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi et se rendre insupportable à ceux qui nous entourent, c'est évident, déjà parce que ça ne plairait pas à Dieu de vivre ainsi. Mais il s'agit de chercher en toute chose ce qui plaît à Dieu, quoi qu'en pensent ceux qui nous entourent. Et si ça leur déplaît que nous vivions selon Dieu, il nous faut l'accepter. Parce qu'un jour, tous devront rendre des comptes à Dieu, y compris bien sûr ceux qui aujourd'hui le rejettent. Et si le juge suprême nous a acquittés, comment pourrions-nous nous inquiéter des fausses accusations des hommes ? Et donc il est libérateur de savoir que notre vie, elle repose désormais entre les mains de Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous fait grâce en Christ. Et notre vie ne repose pas entre les mains de nos contemporains, aussi proches de nous soient-ils. Première exhortation donc, soyons libérés du regard du monde païen sur nous et assurés de la rédemption de nos vies en Jésus-Christ. Mais Pierre nous parle aussi d'une autre libération. Si nous sommes en Christ, nous n'avons plus besoin de, entre guillemets, rentabiliser notre vie. Et nous n'avons pas à craindre que certains renoncements de la vie chrétienne nous fassent rater une vie qui serait meilleure. L'idée qu'il faut maximiser nos expériences parce que la vie nous échappe, c'est une idée extrêmement répandue dans notre culture. Je n'ai qu'une seule vie, alors il faut que j'en profite un maximum. Et donc, pour beaucoup de gens qui nous entourent, et pour nous, souvent, parce que nous sommes tellement influencés par cette façon de penser, eh bien, il faut, pour réussir sa vie, il faut avoir été au moins une fois en Australie, il faut avoir fait un saut en parachute, réussi sa vie sentimentale ou familiale, de préférence après une période où on a d'abord connu plusieurs aventures, il faut avoir acheté une maison avant 45 ans, une Rolex à 50 ans. Alors, dire qu'on veut renoncer à vivre selon ses désirs, pour tout miser sur la volonté de Dieu, ça passe mal. Ça passe mal. Et pourtant, nous dit Pierre, la vie chrétienne, avec ses renoncements, vaut infiniment la peine, malgré la brièveté de la vie présente. Et je pense que c'est en ce sens qu'il faut lire le verset 6, verset qui a fait couler beaucoup d'encre lui aussi et qui a donné lieu à certaines interprétations assez fantaisistes, je pense. Que nous dit Pierre ? C'est pour cela que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire par ces paroles un peu mystérieuses ? Devant un verset difficile, il faut se dire le contexte, toujours le contexte, encore le contexte. Ça résout 90% des problèmes. Eh bien, regardons le verset 5 qui vient juste avant. Pierre y parle aussi des morts. Il utilise le même mot, les morts. Ceux qui calomnient les chrétiens pour leur bonne conduite, dit-il, en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors pourquoi dire ici que Dieu va juger les vivants et les morts ? Parce que, on vient de le voir, Pierre souligne que ce qui va déterminer la situation éternelle de chacun, ce n'est pas le jugement que d'autres posent sur lui dans cette vie. Seul Dieu est souverain sur la destinée éternelle de tous. Donc ce n'est pas parce qu'on a échappé au jugement dans cette vie qu'on y échappera lorsque Dieu fera rendre des comptes à tous. Quelqu'un a peut-être parfaitement réussi sa vie comme le monde l'entend, y compris la Rolex à 50 ans. Et c'est pas pour ça que devant Dieu, il pourra rendre compte de sa vie. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'on aura été calomnié et condamné par les hommes qu'on sera condamné par Dieu. Et quelles que soient les calomnies de ce monde, si nous sommes justifiés, acquittés en Christ, nous savons que le juge suprême, là encore, pose sur nous un regard favorable. Alors pourquoi dire cela à ses lecteurs ? Parce que Pierre veut les rassurer sur le fait que leur souffrance n'est pas éternelle. De même que ceux qui seront restés rebelles à Dieu feront face un jour à sa colère, même après qu'ils seront morts, eh bien ceux qui auront reçu la réconciliation avec lui en Christ recevront alors une vie nouvelle. Et au verset 6, tout ce qu'il fait, c'est qu'il précise que ça s'applique tout aussi aux chrétiens qui sont déjà morts. La résurrection est pour eux aussi, puisque Dieu, lors de son intervention ultime, viendra juger les vivants et les morts. Alors peut-être que ça va de soi pour nous que ceux qui sont morts en Christ, oui, connaîtront aussi la résurrection. Ce n'est pas seulement ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur. Mais ça allait moins de soi pour la première génération chrétienne à laquelle Pierre écrivait. Et ils pouvaient s'inquiéter de ceux qui étaient morts, à qui on avait annoncé la bonne nouvelle et qui l'avaient reçue avec joie, et qui finalement sont morts comme tous les autres. Et ils pouvaient se demander, mais quel intérêt ? Quel intérêt tous ces renoncements ? Quel intérêt que cette vie difficile, si finalement ils ont abouti exactement à la même chose qu'à tous les autres, c'est-à-dire la mort ? Pierre veut les rassurer à ce sujet-là. Il ne parle pas ici d'une mystérieuse évangélisation de ceux qui sont morts quand ils sont morts. Et certains, influencés, je pense, par une mauvaise interprétation du verset 19 qui précède, qu'on a commenté la dernière fois, font un lien entre les deux et pensent qu'il est question ici d'une seconde chance accordée aux gens après la mort. Mais en réalité, le verset 19 du chapitre 3 et le verset 6 du chapitre 4 n'ont rien à voir, ils n'ont aucun mot en commun, il n'y a pas un seul mot en commun entre les deux versets. Le premier nous parle d'une proclamation de Christ sur les puissances mauvaises, nous l'avons vu la dernière fois. Le verset 6 du chapitre 4, lui, nous dit tout simplement que même les chrétiens qui sont morts recevront de Dieu une vie nouvelle, au-delà de la mort. Mais je reviens à ce que je disais plus tôt. Pourquoi sommes-nous libérés du besoin de rentabiliser notre vie ? Parce que ce qui compte, en définitive, c'est la vie qui vient. Et il vaut infiniment la peine de renoncer dans cette vie à tout ce qui peut nous détourner de Dieu pour recevoir de lui la vie véritable au jour de la résurrection. Non, il ne s'agit pas de fuir l'existence présente comme on accuse souvent les chrétiens de faire. Il s'agit au contraire de vivre cette vie pleinement dans l'anticipation et le témoignage à propos de la vie qui vient, qui, elle, est infiniment meilleure et dans laquelle nous serons parfaitement comblés. Il n'y aura plus de renoncement, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de regrets. Si j'ai confié ma vie à Christ, je l'ai confié au souverain éternel sur l'univers. J'ai confié ma vie à celui qui, un jour, va renouveler toutes choses et rétablir une nouvelle création impérissable. Je vais être entraîné dans son triomphe, comme balayé par la gloire qui vient. Les souffrances, les frustrations du temps présent sont bel et bien là. Elles font mal, c'est vrai, mais elles ne seront rien vis-à-vis de la plénitude qui nous attend. Alors vivre autrement, assumer la souffrance aussi de la vie, c'est difficile. Et peut-être que certains d'entre vous se demandent s'ils ne sont pas en train de passer à côté de leur vie, en renonçant à certaines choses que notre société érige en idole. Mais Pierre nous encourage au contraire à persévérer dans la communion avec Christ. Parce que si nous avons Christ, nous proclame la Bible, nous avons ce qu'il y a d'infiniment meilleur. Il vaut mieux un jour dans ses parvis que mille ailleurs. Une vie plus difficile aux yeux du monde, mais qui est déjà porteuse de la vie véritable. Et infiniment, littéralement infiniment préférable à une vie vécue sans lui. Amen.